Vous êtes sur RTL. RTL Grand Soir, Quentin Vinet.
Bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Grand Soir, votre émission pour vous aider à bien comprendre et pour revenir sur toute l'actualité de la journée à tête reposée. Avec les premiers résultats des élections européennes, le scrutin a commencé aujourd'hui au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Les travaillistes néerlandais arrivent en tête à la surprise générale. Les salariés d'Ascoval sont toujours inquiets ce soir, même si Bercy répète que le site de Saint-Saulve dans le Nord n'est pas menacé par la faillite du repreneur britannique. La parole aux victimes, pour la première fois aujourd'hui au procès de France Télécom à Paris où les anciens dirigeants sont jugés pour la vague de suicides à la fin des années 2000. Et puis le tirage au sort à Roland-Garros, Nadal et Federer dans la même partie de tableau. On fera le point sur les affiches à venir porte d'Auteuil pour le tournoi de tennis. Et juste avant 22h30 sur RTL, une formidable initiative, ça se passe dans les Vosges, pour qu'une jeune fille malade passe le plus beau des anniversaires.
RTL Grand Soir, Quentin Vinet.
Mais je vous propose de commencer ce journal par l'exploit du jour, l'exploit de l'alpiniste Elisabeth Revol. Elle est devenue aujourd'hui la première française à gravir l'Everest sans oxygène. C'est son sponsor qui l'a annoncé dans la journée et c'est une performance impressionnante car l'alpiniste revient de loin, Serge Peillot.
Oui, il y a un an et demi, en janvier 2018, Elisabeth Revol avait été secourue miraculeusement sur le Nanga Parbat, 8126 mètres, 9e sommet de la planète. Son compagnon de cordée, un alpiniste polonais, était mort. Victime de graves gelures au pied, Elisabeth Revol avait subi l'amputation de certains orteils, ce qui ne l'a pas empêché donc d'atteindre ce matin à 9h40 le sommet de l'Everest, une ascension du toit du monde qui culmine à 8848 mètres, réalisée sans oxygène, une première pour une alpiniste française. Christine Janin, qui avait été la première française à gravir l'Everest, mais avec oxygène, en 1990, salue l'exploit.
Le faire sans oxygène, je crois que c'est le Graal et c'est la chose la plus belle et la meilleure façon de le faire. C'est toujours un exploit supplémentaire, ça multiplie un petit peu le risque. Mais c'est bien qu'il y ait une femme qui l'ait fait sans oxygène. Je suis très heureuse pour elle.
Elisabeth Revol, qui compte maintenant s'attaquer dans la foulée au sommet du Lhotse, 4e sommet de la planète, à 8516 mètres.
Récit de Serge Peillot pour RTL. Les 270 salariés d'Ascoval ne sont pas vraiment rassurés ce soir. Le gouvernement se montre optimiste pour la reprise du site nordiste de Saint-Saulve, près de Valenciennes, malgré la faillite du repreneur britannique qui se rendra sur place la semaine prochaine. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, l'a dit aujourd'hui lors d'une réunion à Bercy. Les salariés, eux, ils attendent de voir, comme l'explique le porte-parole de l'intersyndicale Bruno Kobzinski.
Il est hors de question pour moi de sauter de joie aujourd'hui, même si on parle de garantie, d'assurance, que tout sera fait pour que ça aille au bout. Je serai rassuré quand on sera au bout. C'est trop grave ce qui se passe. Il y a des familles qui souffrent. On ne peut pas leur dire maintenant « Youpi, vous êtes sauvés ». Si on apprend jeudi ou vendredi prochain de la bouche de Marc Meyohas, qui est l'actionnaire, qui est celui qui a les clés, celui qui a le portefeuille, que non, il n'aura pas les deux usines ou non, il ne pourra pas aller au bout du financement.
Bruno Kobzinski d'Ascoval avec Christophe Ponzio pour RTL. Inquiétude aussi ce soir pour les salariés des supérettes et des supermarchés casinos. La maison mère Rally vient d'être placée en procédure de sauvegarde en raison d'une importante dette. La cotation de l'entreprise avait été suspendue dans la matinée. Audience poignante aujourd'hui au procès France Télécom au palais de justice de Paris où l'ex-grand patron et plusieurs anciens responsables sont jugés pour la vague de suicides dans l'entreprise. C'était à la fin des années 2000. Ils sont accusés d'avoir poussé à bout des salariés et pour la première fois aujourd'hui, après 3 semaines de débat, les familles de victimes ont pris la parole, Raphaël Vantard.
Oui, David Doublé, 71 ans, est en quelque sorte le symbole des méthodes France Télécom. Cadre supérieur, sa progression de carrière est normale jusqu'en 2005. Et puis clairement, sa hiérarchie le pousse à partir plutôt à la retraite. Il est d'abord déclassé, puis il est muté à Besançon, à 400 km de sa famille. Un exil assumé par l'opérateur. Il est demandé par courrier électronique de proposer à David Doublé des postes loin de sa famille pour précipiter son départ. Mais ça ne s'arrête pas là. David Doublé raconte ses affectations successives sans travail. J'étais chef de mission sans lettre de mission. On me traitait comme un bon à rien, un parasite. Face à son ancien PDG, son ancien directeur territorial, l'ex-cadre de France Télécom parle aussi de sa déchéance sociale. Mes enfants m'ont vu pendant 13 mois attendre un poste. L'image d'un père en a pris un coup. Et ses amis, Ils n'osent plus les voir. Quand on n'est plus rien, on a honte, lance David Doublé, d'une voix encore tremblante, énervée et émue. Face à lui, les anciens dirigeants de France Télécom ne se bousculent pas pour répondre. Cela illustre la perte de confiance entre l'entreprise et ses salariés, lance d'abord un ancien DRH. Mais c'était vos méthodes de se séparer comme ça d'un cadre? Vous n'avez pas vu le mail de ce salarié, lance le procureur. Vous savez, madame, répond l'ex-dirigeant, je recevais 200 mails par jour, plus de 40 000 par an.
Raphaël Vantard pour RTL. Patrick Balkany lui a l'impression que son procès pour blanchiment et corruption est celui des juifs de l'après-guerre. Le maire de Levallois-Perret l'a dit aujourd'hui en faisant référence à son père rescapé d'Auschwitz qui a fait fortune au moment où il était interrogé sur des montages financiers. Déjà une surprise ce soir aux élections européennes. Le scrutin a commencé aujourd'hui aux Pays-Bas et contre toute attente, selon les premières estimations, ce sont les travaillistes néerlandais qui arrivent en tête devant les libéraux et les populistes. Le scrutin a débuté aussi au Royaume-Uni dans le contexte très particulier du Brexit. Les résultats seront connus dimanche, mais Marie Billon, on annonce déjà une raclée pour les partis traditionnels.
Et oui, parce que les lignes de fracture classiques ne sont plus. Le référendum est passé par là. Miles vote habituellement travailliste, mais comme le parti n'était pas 100% anti-Brexit, il s'est fait un point d'honneur de les laisser tomber.
Pour moi, c'était important de voter pour un parti non traditionnel car ils ont montré qu'ils sont incapables sur tous les plans. Ils ont fait preuve d'incompétence, donc je ne pouvais pas les soutenir, mais je ne vous dirai pas pour qui j'ai voté.
Simon, lui, a abandonné les travaillistes pour les Verts, mais à regret.
C'est le jour de la grande trahison, c'est moi le grand traître. J'ai abandonné mon parti, mais je me sens justifié de le faire. Rester dans l'Union européenne est la priorité, il faut voter avec stratégie.
Alors il y a quand même des électeurs de droite et de gauche qui ont hésité jusqu'au tout dernier moment.
Je suis membre du Parti conservateur et j'ai beaucoup réfléchi avant de voter pour lui. J'avais deux choix, Tory ou Brexit Party. J'ai choisi mon parti parce que je pense qu'il finira par nous faire sortir de l'UE.
Le Brexit Party de Nigel Farage devrait malgré tout être le grand gagnant de ce bouleversement. Il est le seul parti eurosceptique qui concentre les votes de droite et de gauche. Aucune formation europhile unique ne peut se vanter d'être son équivalent.
Marie Billon pour RTL, les Européennes dans le contexte du Brexit. On en reparlera dans une dizaine de minutes avec notre invité, le député britannique Dominique Grieve. Il a la particularité d'être conservateur, mais contre le divorce entre Londres et Bruxelles. À vous de jouer, ça c'est ce que dit ici en France le Premier ministre Édouard Philippe en bouclant ce soir sa tournée en région pour les européennes, alors que le Rassemblement national est maintenant donné avec 2 points d'avance sur la République en marche dans le dernier sondage Harris Interactive pour RTL, Le Figaro et LCI. C'est la question du moment dans les grandes villes. Quelle place pour les trottinettes électriques? À Paris, un père de famille a décidé de porter plainte contre la mairie. Sa femme et son bébé ont été renversés lundi dans le 17e arrondissement par un jeune homme qui remontait une rue à sens interdit. À Poissy, à l'ouest de la capitale, le maire fait la chasse aux camions. Poissy est situé entre deux autoroutes et les poids lourds n'hésitent pas à passer dans la ville pour gagner du temps. Des barrages ont donc été installés aujourd'hui et le maire a carrément joué les policiers. Mélina Fachin.
Éteignez votre moteur, s'il vous plaît.
Pas de pitié, à chaque camion qui tente d'entrer dans Poissy, le maire Carl Olive et ses policiers municipaux s'interposent.
Là, vous allez à
allumer à la Sarpe, allumer.
Eh bien, il faut aller rechercher l'autoroute A13, mais vous n'allez pas couper Poissy pour gagner 10 ou 15 minutes. Vous allez faire le tour par la Reine 184, ce que vous auriez dû faire. Là, en l'occurrence, vous considérez la ville de Poissy comme une zone de transit.
J'étais pas au courant, parce qu'on avait toujours l'habitude de passer par là.
Ouais, à l'avenir, je passerai plus par là.
Pas de PV pour ce chauffeur, mais obligation de faire demi-tour et que ça lui serve d'avertissement.
S'ils viennent sur Poissy pour travailler, aucun problème évidemment. Si ce n'est pas le cas et qu'ils traversent la ville de Poissy, ils n'ont rien à faire là.
Il a raison.
Les habitants de Poissy n'en peuvent plus.
En terrasse, on s'entend pas parler. Ça défile.
Tous les jours.
Ça n'arrête pas.
Entre 15 et 20 poids lourds par minute. On dirait qu'on est sur une autoroute.
214 poids lourds ont été arrêtés ce matin. C'est 25% de moins que lors de la même opération il y a un an. La preuve, veut croire le maire, que le message commence à rentrer.
Mélina Fachin pour RTL. Journée agitée pour le président du Paris Saint-Germain en football à la veille de l'épilogue de la saison. Nasser Al-Khelaïfi, le patron du club et de la chaîne Bein Sport, a été mis en examen pour corruption active dans une enquête pour les soupçons de corruption liés à la candidature de Doha pour les mondiaux d'athlétisme en 2017 et 2019. Roland Garros en tennis, ça se rapproche. Début du tournoi dimanche et il y avait ce soir le tirage au sort. L'Espagnol Rafael Nadal, plutôt chanceux, il affrontera un joueur issu des qualifications au premier tour. Il se retrouve dans la partie de tableau du Suisse
Roger Federer. Ça s'annonce plus compliqué pour le Serbe Novak Djokovic, mais au moins les trois meilleurs, les trois mousquetaires sont là, se félicite Guy Forget, le directeur du tournoi.
C'est la magie de Roland-Garros qui opère. C'est-à-dire, nous sommes un des plus grands tournois du monde aujourd'hui. C'est ces tournois qui ont fait de ces joueurs des galactiques. Hein, pour reprendre un terme peut-être un peu plus football, Rafael Nadal va venir ici pour essayer de gagner un 12e titre. C'est tout simplement hallucinant quand on se souvient qu'il y a quelques années en arrière, on disait le record de Björn Borg de 6 victoires ne sera jamais battu. Il va être en passe peut-être de le doubler. Imaginez la magnitude de cet exploit s'il y parvenait. Maintenant, le numéro 1 mondial, c'est Novak Djokovic. Il vient de gagner les 3 derniers du Grand Chelem. Il a gagné à Madrid, il perd en finale contre Nadal à Rome. Et on a un Roger Federer à 38 ans qui, comme numéro 3 mondial, qui a des références sur terre battue absolument incroyables et qui, au travers de ses interviews, donne l'impression finalement d'arriver ici avec une grande joie, une certaine fraîcheur et un tennis qui est toujours aussi facile. Donc la vieille garde contre la nouvelle génération, c'est vrai que c'est un choc que l'on attend tous et on se réjouit finalement de suivre cette édition 2019 de Roland-Garros dans ce stade finalement qui a été refait de A à Z.
Guy Forget avec Isabelle Langer pour RTL. Les stars du tennis arrivent donc à Paris. Duel franco-français dès le premier tour chez les dames entre Kristina Mladenovic et Fiona Ferro. Une autre star tiens, est à Paris en ce moment. Il s'agit là de la chanteuse américaine Rihanna, icône de la pop mais aussi businesswoman. Elle lancera demain dans la capitale sa ligne de vêtements de luxe Fenty.
RTL Grand Soir, le portrait du jour.
Isabelle Choquet vous dressait donc ce soir le portrait de Rihanna, alias le caméléon.
Son premier tatouage, c'était en 2006, sur le pied. Une note de musique, forcément. Aujourd'hui, il y en a une vingtaine, une pluie d'étoiles filantes, la date de naissance de sa meilleure amie et sur le flanc, un pistolet. Une arme qu'elle s'est choisie après un drame. En février 2009, son fiancé Chris Brown la tabasse et les images de son beau visage tuméfié font la une. Mais Rihanna ne veut pas être une victime. Alors, elle devient Bad Girl Riri, la vilaine fille, la femme forte qui n'a pas froid aux yeux ni au reste. Dans ses clips, elle est de plus en plus trash et provoque. Dans la vie, elle passe par tous les excès. Elle claque son fric, arrive en retard à ses concerts. On la voit danser en soirée, pas très habillée, pas très sobre non plus, du grand n'importe quoi.
Oui, on est bien loin de la jeune fille sérieuse de la Barbade.
Celle qui s'appelait encore Robin Fenty, Rihanna c'est son second prénom. Elle ne rigolait pas beaucoup hein, la petite, avec son père drogué, alcoolique, toujours fauché, sa mère qui se prend dérouillée sur dérouillée. Dans son école militaire, elle est harcelée parce qu'elle est à moitié blanche. Heureusement, il y a la musique. À 12 ans, elle monte un groupe avec ses copines. Et puis un jour, un producteur américain passe par là en vacances. Il les reçoit. À la minute où Rihanna est entrée dans la pièce, dit-il, les deux autres n'existaient plus. La suite, c'est une audition à New York avec Jay-Z, le pape du hip-hop. Et un premier album vendu à 2 millions d'exemplaires. Elle n'a que 17 ans. Aujourd'hui, elle est la plus grosse vendeuse de disques au monde. 213 millions de singles et d'albums.
Et à 31 ans maintenant, elle s'est un peu calmée.
Oui, elle a pardonné à son père. Elle a rechanté avec Chris Brown. Aucune douleur n'est éternelle, dit-elle. Je suis peut-être son ange gardien. Elle est en tout cas celui de beaucoup d'enfants car elle est très engagée pour l'éducation des gamins pauvres. Elle est devenue classe, elle fait du cinéma et c'est une ambassadrice du body positivisme. Quand elle prend quelques kilos, elle assume. Les marques l'adorent, elle est la première égérie noire chez Dior, travaille avec Puma et développe donc peu à peu son propre label en bonne chef d'entreprise. Bref, Rihanna c'est comme Dalida, je suis toutes les femmes, il ne lui manque que le rôle de maman mais ce n'est pas gagné car l'intrépide qui nage avec les requins a peur des accouchements et des fantômes aussi.
C'était le portrait signé Isabelle Choquet. Merci Isabelle et bonne soirée.
Bonne soirée.
Et Patricia Charbonnier, bonsoir à vous. Nous vous écoutons pour la météo de demain.
Bonsoir à tous. Et bien après une journée très agréable et très douce, avec même des températures estivales dans le sud, la situation météo est en train de se dégrader par les Pyrénées, avec là une perturbation active qui va donner des pluies soutenues dès cette nuit et des cumuls assez importants demain tout au long de la journée sur le sud-ouest, en particulier sur les départements pyrénéens. Et cette instabilité va progressivement gagner du terrain dans la journée vers le massif central, le centre-val de Loire et vers les frontières du nord, donc dans toute cette zone, alternance d'averses et d'éclaircies et des averses localement fortes et orageuses. Le temps restera calme demain sur les côtes de la Manche et sur un petit quart nord-ouest avec des éclaircies. Le tout dans des températures encore assez douces demain matin, comprises entre 7 et 17 degrés. Mais les températures vont chuter demain après-midi sous la pluie, en particulier dans le sud-ouest, avec seulement 14 degrés à Tarbes, 18 à Brest, 22 à Lille, mais encore 23 degrés à Paris, 24 à Marseille et 26 à Montélimar.